Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien au fond?
Au niveau du son.
Ou faut parler plus fort? Non, c'est bon.
Faut pas parler moins fort.
Alors voilà, on remercie donc Émilie Penet pour Dauphine, Marie Amani Bossel de Descartes. Merci à Sœur Pascale de nous recevoir, donc la responsable de l'aumônerie de Jussieu. Et merci à vous tous d'être venus si nombreuses, si nombreux. Voilà. On est très heureux d'être parmi vous. Et on est bien touchés, de l'appel de Marie Amani. Donc, on se présente donc un peu plus. Benoît et Marie-Exé Clermont, à nouveau. On a donc 36 et 32 ans. Benoît est officier dans l'armée de terre. Et ça se voit un petit peu. Et moi, j'étais mère au foyer jusqu'à l'année dernière où j'ai repris des études d'éthique biomédicale. Je vois d'ailleurs une d'entre vous qui est en cours à la fac avec moi. Voilà. Donc, on a effectivement 4 enfants. Dans 2 jours, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Voilà. Vous saurez tout. Donc on s'est rencontrés très très jeunes et on a eu la grâce de recevoir 4 enfants qui sont nés au sein de notre foyer. Donc Arthur qui est né en 2006, Sybille qui est née en 2008, Louise qui est née en 2011 et Gaspard qui est né en 2013. Voilà, on va particulièrement, vous vous en doutez, vous parler de Gaspard. Non que nos 3 autres enfants ne sont pas important, mais le destin qui vous intéresse sans doute plus, c'est celui de ce petit bout de chou qui fait déjà partie du ciel. Donc je laisse Benoît.
Alors, pour ceux qui le savent pas, Gaspard, il est décédé le 1er février 2017, à 41 mois, il y a 8 mois. À sa naissance, Gaspard, je le vois en face, c'est marrant. Il avait son affiche en face, c'est marrant. Il avait rien d'anormal. Il était tout à fait normal. Et puis le fait qu'on ait déjà eu 3 enfants et que ce soit le 4e, on avait un peu matière à comparer. Donc jusque-là, jusqu'à ses 11 mois, rien de particulier, en tout cas de mon point de vue, de papa, c'est-à-dire pas forcément très observateur. Il n'y avait rien de particulier. Marie-Axelle, le surnom de Marie-Axelle, c'est Max. Donc, parfois, je dirais Max. Hein. Mais Max, elle sentait quelque chose. Moi, ça dépassait largement mes compétences de papa. Mais elle sentait qu'il y avait, en le comparant un peu au fur et à mesure avec Arthur, Sybille et Louise, elle sentait qu'il y avait des petits signes cliniques un peu étonnants. Gaspard, il respirait bruyamment. Il se tournait pas aussi bien. Il n'était pas aussi tonique. Il était un peu hypotonique par rapport aux autres. Il était un peu... il avait toujours un bout de langue, un tout petit bout de langue sorti. Marie-Axelle trouvait ça étonnant. Moi, je ne trouvais pas ça du tout étonnant. Je m'en tapais un peu. Je me disais, il prend son temps, pas de stress. Au fur et à mesure, quand même, les pédiatres qu'on allait voir de manière un peu systématique, en visite, en contrôle technique, disaient, effectivement, il y a quelque chose, il faut qu'on regarde... Puis jusqu'à ce qu'un jour un pédiatre nous dise « Bon, là, ça dépasse un peu mes compétences, il faut aller voir quelqu'un d'autre, prenez un rendez-vous de neuropédiatre, mettez en place un peu de kiné pour le muscler un peu jusque-là, et puis vous verrez bien. » Ça, on était à Rennes. Donc ça, c'était jusqu'au 11 mois de Gaspard. À ce moment-là, on a déménagé. Moi, j'ai été muté à Paris, à Ballard. Donc on est venu s'installer à Rueil-Malmaison. Et on a donc été suivi par... une neuropédiatre à l'hôpital de Garches, Raymond Poincaré, ça, à Garches. Et on a continué du coup à faire toute une batterie d'examens, des fonds d'œil. Surtout que plus le temps passait, plus l'écart entre la progression de Gaspard et celle de ses frères et sœurs était de plus en plus criante. Voilà, même moi, je commençais à me dire, effectivement, peut-être que tu arrêtes de te dire que tout va bien parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Alors moi, j'avais... il y avait peut-être un tout petit truc qui allait pas, mais j'étais loin d'imaginer ce qui allait arriver le 29 septembre. Donc Gaspard, à ce jour-là, il a 13 mois, c'est la veille de ses 13 mois, où là, choc immense pour nous. Les médecins nous annoncent à Garches que Gaspard est atteint d'une maladie neurodégénérative. Alors, Marie-Excel la détaillera un peu juste après. Neurodégénérative, incurable, génétique. Je crois que c'est les trois trucs un peu chiants. Ouais, génétique, hein. Ouais, vous savez tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on avait une chance sur quatre à chaque grossesse, hein, depuis le début. Neurodégénératif et incurable. Voilà. Alors là, pendant ces quelques les mois qui ont suivi, Marie-Axel et moi, on a pris un chemin totalement différent. Marie-Axel, elle était un peu soulagée de ce diagnostic, parce qu'elle sentait bien qu'il y avait quelque chose, et tout le monde lui disait, mais non, arrête. Moi, le prof, j'étais le premier à lui dire, arrête, tu m'énerves, arrête de dire qu'il y a un truc qui va pas. Il prend son temps, voilà, ça va aller, ça sera normal. Marie-Axel, voilà, face à l'annonce du diagnostic, passé le coup de barre, elle a été soulagée qu'on prenne en charge Gaspard, que Gaspard soit pris en charge par des pros, que sa maladie était tellement rare et tellement horrible, qu'évidemment, on nous a mis tout de suite les meilleurs sur le dos, et c'était super. Donc, en ça, j'étais pas choqué par son soulagement. Mais moi, pour le coup, j'étais complètement... j'avais pris un mur en pleine face, et j'imaginais absolument pas que ça pouvait m'arriver. Voilà, c'est vraiment le genre d'histoire qui arrive qu'aux autres. Hein. Donc voilà, moi j'ai pris un mur en pleine face, je suis tombé par terre et j'ai mis 6 mois pour me relever. La chose qui était la pire pour moi, je pense que c'était l'impuissance. Et cette impuissance, elle me mettait en colère. J'étais impuissant parce que je pouvais rien faire pour le soigner. J'avais beau essayer de faire des marathons et faire des 20 km pour ramasser. Vous savez, je faisais plein de cagnottes sur Facebook. Tous mes copains me disaient, bon, il mettait un peu d'argent sur la cagnotte. Au bout d'un moment, ils en mettaient un peu moins. Hein. Et ce qui était normal, et puis voilà, mais cette impuissance, le fait que je ne sois pas capable de résoudre le problème de Gaspard, moi ça me mettait dans une colère dingue, et du coup, bah voilà, c'est un espèce de cercle vicieux un peu dépressif. Je crois que les hommes, on a un besoin de puissance, que je ne dis pas du tout ça au sens machiste, mais on a un besoin de puissance. Quand mon épouse me dit, quand elle m'expose un problème, mais ça ne va pas trop en ce moment. Moi, je n'ai pas du tout envie d'écouter, j'ai juste envie de résoudre son problème. Donc je lui dis, pas de soucis, Marie-Excel, tu prends ton week-end, va avec tes copines, je garde les enfants.
Bien sûr.
Et Marie-Excel, elle me dit. Et en fait, Marie-Excel, c'est pas. Bon, parfois, elle a besoin de ça, mais c'est pas vraiment ça dont elle a besoin. Elle a besoin que je l'écoute. Bon, ça, j'ai mis, je sais pas combien de temps, 10 ans et un paquet de fleurs avant de comprendre ça, mais. Mais voilà, ce désir de puissance, il se traduit chez les hommes par le désir de vouloir résoudre les problèmes. Et c'est putain, ça participe quand même d'un bon sentiment, hein. On veut résoudre les problèmes. Voilà. Ben, le problème qui était face à moi et qui était sans doute le pire problème qu'on puisse imaginer pour un papa, hein, c'était de mon fils allait mourir. C'était certain. Globalement, dans l'état de la recherche, il n'y avait aucune chance qu'on guérisse. Il allait en plus souffrir. Ma femme allait perdre son fils. Mes trois autres enfants allaient perdre un petit frère. Comment on s'en remettrait ? Est-ce qu'on y arriverait ? Est-ce que j'arriverais ? Ça, j'ai bien mis 6 mois avant d'arriver à réfléchir. Voilà ce 29 septembre 2014, ce terrible jour. Voilà, et maintenant je vais laisser un peu la parole à Marie-Excel qui va un peu vous détailler un peu plus la maladie de manière un peu plus scientifique. Oui.
J'avais préparé le passage du descriptif de la maladie comme si vous étiez tous déjà médecins. Alors, je vais peut-être faire un tout petit peu plus simple, parce que je pensais qu'il y avait un tout petit peu plus de santé. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a des scientifiques, notamment de la bio et des maths. Voilà, donc je parle moins médecin. Ce jour-là, on nous a donc appris que Gaspard avait la maladie de Sandoff, et donc on nous a dit que c'était donc une maladie génétique dite autosomique récessive, c'est-à-dire que Benoît et moi, on est tous les deux porteurs de cette maladie. On a donc une chance sur quatre, comme vous l'a dit Benoît, d'avoir un enfant malade à chaque grossesse. C'est une maladie en fait qui est handicapante, dégénérative, et elle a en fait comme point commun un dysfonctionnement du lysosome. Alors qu'est-ce que c'est que le lysosome ? C'est en fait une matière qui est à l'intérieur de chaque cellule que nous avons tous, et ce sont ces petits lysosomes-là qui sont en fait déficients. Ils sont défaillants parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. ces petits lysosomes dans nos cellules, ils servent à nettoyer la cellule pour qu'elle soit toujours efficace et toujours saine. Comme les lysosomes chez Gaspard sont défaillants, ils s'accumulent au sein de la cellule, alors que normalement ils devraient faire leur travail puis s'évacuer. Ils s'accumulent dans la cellule, c'est donc une maladie dite de surcharge. C'est-à-dire que les cellules doublent de volume parce qu'elles sont encombrées de plein de petits organites qui ne s'en vont pas. Ce qui entraîne chez Gaspard une défaillance donc, de l'organisme et surtout une déformation de l'organisme. C'est-à-dire que chez Gaspard, c'est principalement le système nerveux central qui est touché. Donc le système nerveux central, on est d'accord que c'est donc dans le cerveau. Et on est tous, on va dire, obéissants grâce à notre cerveau. Et quand il fonctionne mal, le corps et les sens fonctionnent de moins en moins bien. Alors, effectivement, ce jour-là, on nous a donc appris que Gaspard allait être polyhandicapé, ce qui est donc un symptôme de la maladie génétique. Et successivement, il perdrait ses sens et sa motricité. Donc ça n'allait pas se modifier du jour au lendemain. Il n'allait pas demain devenir aveugle, sourd, muet et handicapé. Ça serait progressif. Donc on a demandé une espérance de vie. Et les médecins n'ont pas trop voulu nous répondre, mais il y en a quand même un qui nous a dit, en fait, il vous reste au max 4 ans. Donc quand on est sorti de là, on savait que Gaspard allait en fait dégénérer sur plusieurs mois et donc qu'il allait falloir l'accompagner pour l'aider à être le plus confortable possible. Alors je vous parle de l'évolution de son état parce que c'est important pour vous de bien définir ce que veut dire être malade et donc être handicapé parce que ce sont des mots qu'on emploie très peu. Dans notre société actuelle et souvent malheureusement les malades et les handicapés ils n'ont pas trop de place visible. Voilà, alors si quelqu'un veut bien changer la photo de ce petit de chose là.
Quand tu es face à l'écran, la flèche de gauche face à alors, l'objectif là, la
voilà,
flèche de
là,
gauche.
Là c'est petit Gaspard, c'est un an donc pas longtemps après son diagnostic et là c'est Gaspard qui est et qui a déjà 2 ans et demi. Et en fait, je parlais d'une autre photo.
Ouais.
Que
faut recliquer.
Je suis désolée. Faut recliquer. Je suis vraiment confuse.
C'est
voilà.
Encore une fois.
Encore une fois. Voilà. Ouais, et donc, à la fin de sa vie, alors c'est pas pour être voyeur, c'est juste pour vous montrer ce qu'est le handicap et ce qu'est la maladie. Voilà. On vous en montre une. On en a évidemment plein d'autres, mais on vous en montre une seule. Donc, à la fin de sa vie. Voilà, Gaspard était alité 24 heures sur 24 parce que c'était trop difficile pour lui d'être assis. C'était trop difficile aussi d'être dans les bras. Gaspard ne parlait pas, il n'a jamais parlé. Il ne bougeait plus, il bougeait juste uniquement les yeux et il les tournait vers la personne qui parlait. C'est aussi... nous, ça nous a apporté une grande joie, en fait, de voir ses yeux bouger vers la personne qui lui parlait parce qu'on savait du coup qu'il était conscient. Parce que dans la société française actuelle, on parle très souvent de cet état qu'on appelle l'état posi-relationnel. C'est-à-dire que c'est un état qui n'est pas comme vous et moi, mais qui indique juste que la personne est dans une relation très subjective, parce qu'il n'y a pas de communication dans un sens et dans un autre. Moi, je lui parle, mais lui ne me parle pas. Moi, je bouge autour de lui, je le prends dans mes bras, je le nourris, mais lui ne se nourrit pas tout seul. Voilà. Par contre, on le distingue vraiment de l'état végétatif, et ça c'est important de faire la différence entre l'état possi-relationnel et l'état végétatif. Peut-être qu'en parlant de Vincent Lambert, ça résonne un petit peu en vous. Comment ? Voilà, donc je distingue juste ça, parce que l'état possi-relationnel, ça veut dire non communicant, mais ce n'est pas un légume. C'est la différence qu'il faut bien distinguer. Parce que quand on parle aussi de mort naturelle ou d'euthanasie, c'est très important d'avoir cette nuance et de la connaître, vous en tant que jeune et en tant que soignant de demain. Voilà. Alors, on dit aussi que Gaspard est passé de l'état possi-relationnel à l'état en fin de vie. Voilà, parce qu'on a accédé aux soins palliatifs pour notre petit garçon.
Oui, Gaspard, il n'était pas... branché, enfin, vous savez, on a reçu, Parfois, les gens me disaient, mais pourquoi vous le débranchez pas? Enfin, gentiment. Hein. Il est... Non, mais enfin, il n'était pas branché. Il respirait pas de manière artificielle. La seule chose qui était artificielle, on voit là le petit fil là, c'était sa gastrostomie. Il avait un petit trou dans l'estomac parce qu'il avait perdu sa capacité de déglutition. Et donc, on lui donnait du lait directement par une espèce de petite pompe qui allait directement dans son estomac. Là, sur la photo, il a juste des petites lunettes d'oxygène. C'est juste un tout petit peu d'aide pour la respiration, mais il respirait tout à fait normalement. Juste que pour le confort, on lui mettait un peu d'oxygène en plus. Mais il n'était pas branché. On ne pouvait pas dire « Allez, on arrête, on le débranche. » Ben non, ça aurait mis 20 jours arrêter de le nourrir. Enfin, voilà. C'est important de se rendre compte que malgré son état post-irrelationnel, il était en fin de vie, dans un processus dégénératif, quoi qu'on en dise, très rapide, mais il n'a jamais vécu de manière artificielle. Nous, on a toujours dit, il est hors de question, si par exemple Gaspard fait un arrêt cardiaque, qu'on réanime. On s'est dit, ben non, ça voudrait dire que c'est fini. Voilà. On a eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça. Mais voilà, il était allongé, sans bouger, il était nourri artificiellement, mais il respirait de manière autonome. Voilà, c'est important de le dire, non? Voilà. Tu voulais le dire? Voilà. On va remettre du coup une photo un peu moins tristoune. Merci. Voilà, c'est ce que tu veux. Ouais, non, je rechange encore. Voilà, celle-là, elle est bien. Super. Après, on voulait parler un peu de dignité. Ouais, surtout qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu mis à toutes les sauces. Chacun essaie de s'approprier. Pour nous, on ne s'est jamais trop posé la question de la dignité de Gaspard. Quoi. Quand votre fils est malade, on ne se demande pas si il est digne, pas digne. Voilà, pour nous, cette question, elle ne s'est jamais posée. Il est né digne. C'est mon fils, quoi. Donc le mec qui dit qu'il n'est pas digne, il pète sa gueule. Mais sa dignité de mon fils et de notre fils, chaque personne, quelle qu'elle soit, la possède. Nous, on s'est vraiment dit que sa dignité, elle était ontologique. C'est-à-dire qu'elle tenait, juste à sa personne. Voilà, le fait d'être un être humain, on est digne, quel que soit son état. On s'est vraiment dit que finalement, c'était le regard qu'on portait sur notre garçon qui le rendait digne. Alors nous, évidemment, on avait un regard de parent. Donc, on le trouvait méga beau. Ben, voilà, évidemment. Mais la dignité du malade, elle tient davantage à la dignité du regard qu'on porte sur lui qu'à ce qu'il est vraiment. Donc, voilà, pour nous, c'était hyper important. Voilà, maintenant je vais laisser un peu Marie-Excel vous parler un peu de... Ah non, pardon.
C'est bien.
Je suis encore tout ça.
Non, c'est bien. T'en es là, en fait.
Voilà, maintenant je vais vous parler un peu de sa prise en charge.
Finis la dignité.
C'est où, là?
Tu finis la dignité, là.
Ouais, je fais les choses pas dans l'ordre. Comme à l'armée, il faut toujours faire les choses dans l'ordre. Donc le soir, je me lâche. Voilà. Ouais, on s'est vraiment dit que la seule chose qui pouvait menacer la dignité de Gaspard, c'est le regard qu'on portait sur lui. Et d'ailleurs, parfois, on l'a constaté. On avait beaucoup de visites à la maison. Gaspard, on l'a gardé à la maison très très longtemps. Et on sentait bien que les seuls moments où on était gêné, c'est quand les gens qui voyaient Gaspard avaient sur lui un regard un peu de pitié, un peu « mais putain, faut que ça se finisse, bon, ce pauvre petit gars ». Et c'est à ces moments-là où on se disait putain, Gaspard, le regard qu'a cette personne sur lui gêne sa dignité. Et voilà, je pense que c'est vraiment très important que dans le regard qu'on a les uns sur les autres, voilà, quand on essaie de regarder quelqu'un, chaque personne est infiniment digne et chaque personne est vraiment un trésor. Voilà. Alors Gaspard, c'était notre fils, mais on a mieux compris en ayant un fils très malade à quel point quand on regarde quelqu'un, chacun est un trésor. Et ça, c'est Gaspard qui nous l'a appris. Évidemment, sa vie, elle aurait pu sembler totalement méprisable dans une société de la performance où on met on exergue en permanence la beauté physique, l'effort. On parlait de ça avec quelqu'un hier soir. On disait aujourd'hui, les seuls handicapés qu'on met en valeur, c'est ceux qui sont forts aux Jeux Olympiques, quoi. Voilà, c'est eux qu'on met en valeur. Bon, même les handicapés, il faudrait qu'ils soient performants. Ce qui est terrible, on doit pouvoir faire l'éloge de la lenteur. C'est pas le cas aujourd'hui. Du coup, Gaspard, il nous a vraiment mis face à cette vérité finalement infiniment belle de l'aspect précieux de l'existence de chacun individuellement, malgré son manque de performance, malgré son apparence physique parfois désagréable. Et encore, on avait de la chance parce que Gaspard, il était beau physiquement, mais à la fin, quand même, c'était dur. Hein. Enfin, voilà, à la fin, ça, il a été vraiment marqué physiquement par la maladie. Hein. Voilà, il faut vraiment que nous, on éduque notre regard à autre chose que voir la première chose chez les gens. Ouais. Je pense que pour un garçon, par exemple, c'est une vraie. C'est pas toujours évident dans la société. Enfin, voilà, où on nous montre que la seule chose qui vaille, c'est la beauté physique des femmes. Voilà. Gaspard, il a nettoyé notre regard. Il y a une citation qu'on aime bien qui dit qu'il y a des choses qu'on ne voit comme il faut qu'avec des yeux qui ont pleuré. Et ben, je pense qu'effectivement, voir Gaspard dans son lit chaque jour, moi, ça a nettoyé notre regard sur les autres. Voilà. Un des premiers bienfaits et une matérialisation très concrète de la fécondité de notre petit garçon. Voilà. Donc, hop. Pas en arrière, donc ce qu'on avait prévu de vous dire. Et Marie-Excel va vous parler un peu plus de la prise en charge de Gaspard.
C'est trop facile. C'est pas parti. Effectivement, notre grand thème c'était comment valoriser la dignité de Gaspard. Benoît vous a parlé du regard, qui était une des réponses à cette question. L'autre réponse qu'on apporte ce soir, c'est la prise en charge, voilà, notamment dans le soin. Parce que quand on a reçu ce diagnostic, on s'est posé beaucoup de fois la question pourquoi, notamment Benoît, pourquoi ça nous arrive, pourquoi Gaspard est malade, pourquoi Gaspard va mourir, pourquoi il va ne plus continuer à vivre avec ses frères et sœurs, pourquoi nous, pourquoi ça nous est arrivé à nous. Et finalement, on s'est aperçu qu'en changeant juste le mot « pourquoi », en « comment », ça a changé toute la donne. Pourquoi, finalement, c'est une question auquel on n'arrive jamais à répondre, à laquelle on n'arrive jamais à répondre. Vous avez toujours en permanence des questionnements, des « pourquoi », et finalement, on s'aperçoit que la réponse est bien mystérieuse et que sans doute, la réponse, on l'aura un jour ailleurs. Mais on vous l'a promis en tout cas. Et donc cette question du comment, finalement, ça changeait la donne parce que ça nous rendait actifs en disant comment on va s'occuper de Gaspard, comment on va prendre soin de lui, comment on va rendre sa vie la plus confortable possible, comment on va l'aimer du mieux qu'on peut. On s'est aperçu que ça changeait complètement notre regard qu'on avait sur lui parce que tout était possible. Tout était possible, notamment en prenant soin de lui. Alors, de deux manières. Il y avait le soin médical. Donc les soins, Gaspard était en soins palliatifs. Donc c'était l'objectif des soins. Hein. C'était uniquement le confort, puisqu'il n'y avait pas de thérapie possible. Et Gaspard avait donc un cocktail de médicaments un peu tous les jours pour l'aider à supporter ses douleurs et ses souffrances. Les soins médicaux, ça a été une des premières réponses dans le comment on a contribué à la dignité propre de Gaspard en le rendant confortable. Voilà, d'où ses antidouleurs, ses antivomitifs, la nutrition par gastrostomie, le fait de changer de posture aussi très très régulièrement, toutes les 10 à 15 minutes, toutes les heures et même la nuit. Hein. C'était une manière pour nous de l'aimer encore mieux. Et il y avait donc aussi... tous ces soins-là, alors nous, on les faisait parce que Gaspard a été à la maison. Il était en soins palliatifs à domicile parce que c'est la formule qu'on avait choisie, Benoît et moi. Et on s'est, grâce à ces soins-là, appuyé sur tous les professionnels de santé qui nous ont donc beaucoup aidés. On remerciera jamais assez la psychomotricienne, l'éducatrice spécialisée, l'ergothérapeute, la kinésithérapeute, toutes ces personnes-là qui ont fait que prendre soin de Gaspard à domicile était possible. Les neuropédiatres, la neurologue, voilà, toutes ces personnes qui nous ont vraiment aidés, les infirmières puéricultrices. Voilà, c'était une équipe très complète qui passait tous les jours à la maison. Voilà. Alors, on avait donc une visite de kinésithérapeute par jour et ponctuée dans la semaine certains spécialistes ou soignants qui venaient. Donc, on avait voilà, une heure de psychomote, deux heures d'éducatrice spé, une heure d'ergo. Voilà, toutes ces personnes-là ont favorisé ce prendre soin. Et l'autre manière qu'on avait à prendre soin de Gaspard, c'était le soin d'un parent à un enfant. En éthique biomédicale, on apprend souvent le take care. Voilà, c'est le prendre soin. C'est exactement ce qu'on a voulu offrir à Gaspard. C'est-à-dire que c'était une présence 24 sur 24, un parent à la maison en permanence. C'était fini les petites soirées, c'était fini les petites sorties entre potes. On prenait soin de lui aussi également en prenant soin de son corps. On avait décidé de lui offrir des petits massages, un coiffeur qui venait à domicile pour que sa petite coupe soit toujours sympa et impeccable. Voilà, on utilisait beaucoup aussi les sens. Gaspard, il aimait bien respirer des odeurs parce que très rapidement, il a plus réussi à déglutir et plus réussi à s'alimenter. Donc, on lui faisait respirer la petite clémentine que Louise épluchait en sortant de table. Elle allait lui mettre sous le nez les écorces de clémentine à respirer. On avait un petit diffuseur d'huile essentielle pour qu'on lui mette la lavande, l'eau de rose, machin. Donc, ça, c'est Sybille qui faisait ses petits cocktails. Voilà, on avait vraiment l'intention de prendre soin de son cœur. Et en passant par le soin du corps. C'était une des réponses à un comment. Et il y en existe sans doute plein d'autres. Mais nous, c'était ce qu'on avait trouvé. Et tu me disais que...
Je te disais que je voulais que tu racontes la petite anecdote.
Ah oui, de l'infirmière.
Ouais, oui. Pour montrer que cette bascule permanente entre le fait d'être le médecin de Gaspard et d'être la maman de Gaspard, c'était, c'est quand même pas une chose facile.
C'est ça. Oui, effectivement, je vous raconte une anecdote pour étayer un peu voilà, tout ce que je viens de vous confier. C'était un mardi et Gaspard avait passé une nuit vraiment très très difficile, dans le sens où le fait d'être toujours allongé le faisait vomir beaucoup. Et quand on est alimenté par gastrostomie, donc par son qui arrive directement dans l'estomac, on a des apports qui parfois nous fait un peu vomir parce qu'il y a trop de lait ou pas assez de lait ou que justement, on a des petites nausées. Et donc, ce matin-là, je me suis rendu compte que Gaspard était vraiment dans un mauvais état et qu'il fallait rester collé à son lit, enfin, vraiment l'expression au chevet d'eux, quoi, au chevet de Gaspard. Et toute cette journée s'est passée. Donc les enfants allaient à l'école tout seuls, rentraient de l'école tout seuls parce que moi je pouvais pas aller les chercher. Donc là aussi ils ont pris beaucoup sur eux pendant 3 ans. Et je me suis rendu compte le soir, il était 20h, que je n'avais été que l'infirmière de Gaspard, dans le sens où je n'avais pris soin de lui, mais qu'en termes médicamenteux ou postural. Je n'étais plus du tout la maman de Gaspard, parce que j'avais fait des gestes très mécaniques, changer ses draps, le changer, le positionner en PLS d'un côté, le positionner en PLS de l'autre, passer de son dos à son côté, de son dos à son autre côté. Et à 20h, je me suis dit, en fait, toute la journée, je n'ai pas été la mère de Gaspard. Je n'ai pas aimé avec mon cœur, j'ai aimé avec mes gestes, j'étais vraiment infirmière, mais je n'ai pas été la maman de Gaspard. Alors, dans l'anecdote, je suis donc obligée de parler de Marie, la maman de Jésus, parce qu'à ce moment-là, la seule personne qui pouvait m'aider, c'était donc la mère qui a le plus vu souffrir son fils, c'est-à-dire la Sainte Vierge qui a vu d'elle-même, de ses yeux, souffrir et mourir son fils sur la croix. Voilà, je me suis dit que c'était la mieux placée parce que elle avait déjà tout vu, quoi. Elle avait déjà tout réalisé. Et donc à ce moment-là, j'ai juste prié 3 minutes en disant « Sainte Marie, s'il vous plaît, là, stop, arrêt sur image, je vous en prie, redonnez-moi mon cœur de mère. » Voilà. Et 5 minutes après, je me suis effondrée en sanglots auprès de Gaspard. Je l'ai câliné, j'ai essayé de remplir son réservoir d'amour que je n'avais pas rempli du tout de la journée parce que je n'avais été que mécanique et qu'infirmière. Voilà, donc pour étayer voilà, cette dualité d'infirmière et de mère. Aux infirmières qui sont là, on ne demande pas d'être
mère.
Maman auprès de chaque patient. Voilà. Mais en tout cas, c'était voilà, donc on en arrive à la fécondité de Gaspard. Maintenant qu'on vous a montré comment on avait, nous, essayé de valoriser sa dignité, on en arrive à la fécondité, au fruit de la vie de Gaspard.
Mais oui, c'est... Oui. Je repense à ce que tu viens de dire là. Moi, par exemple, quand je m'occupais de Gaspard, comme je m'occupais moins fréquemment, de donner les médicaments à Gaspard, moi j'ai l'impression d'être au boulot quand j'étais avec Gaspard, quand je lui donnais ses médicaments. Il fallait donner 4 gouttes de Rivotril, 2 gouttes d'Exomil. Il fallait faire gaffe à ce que. Non, pas d'Exomil, j'ai inventé ça. Enfin, j'ai oublié le nom, ça y est. De je sais pas quoi, il. 4 gouttes de je sais pas quoi, il aussi. Mais il y avait un truc, c'était un peu visqueux, donc il fallait faire attention avec la seringue, parce que sinon ça bouchait le tube de la gastrostomie, et du coup il fallait tout recommencer à zéro. Mais pas sûr, parce que j'étais pas sûr que la première goutte de Rivotril soit passée. Alors, moi j'avais vraiment peur. Et du coup, je le faisais vraiment de manière hyper mécanique, hyper appliquée, et je trouve que c'est vraiment très difficile de s'occuper, d'être un papa qui s'occupe de son fils comme devrait le faire un infirmier. Voilà. Alors nous, c'est ce qu'on a réussi à faire, enfin c'est ce qu'on a choisi de faire en fait, en choisissant l'hospitalisation à domicile, parce que pour nous, l'hospitalisation à l'hôpital, c'était ingérable. On l'a pas raconté. Gaspard, il a été hospitalisé 3 ou 4 fois pour un bon mois et demi au total, 2 mois au total. Ça a été les moments les pires de notre vie de couple, quoi. C'était l'infernal. Gaspard était à l'hôpital, Marie-Axel était avec lui la journée, moi je rentrais du boulot, je fonçais à l'hôpital, on se croisait avec Marie-Axel au cours d'un sandwich Sodebo, on faisait la passation de consigne dans la chambre de Gaspard, hop, Marie-Axel passait, moi je restais avec Gaspard restais avec Gaspard jusqu'à 1h du matin, j'attendais l'équipe pour savoir qui étaient les filles qui faisaient la nuit, putain, c'est elle. Alors j'ai envoyé un texte à Marie-Axel, je disais, désolé, je vais rester dormir parce que c'est votre cruche. Il y a aussi des gars. Hein. Parfois, vous savez, hein, il y a l'infirmière en qui on a vraiment confiance, et puis il y a, comment ça s'appelle, le gardien de fille.
L'auxiliaire de puériculture.
Ouais, l'auxiliaire de puériculture. On est là, non, c'est celle qu'on a entendue la veille pourrir le petit garçon de la chambre d'à côté. Vous dites, non, laisse tomber, je dors avec lui. Alors, après, vous savez ce que c'est, certains, dormir à l'hôpital. Hein. On dort sur mon lit ressemble à ma chaise, là. Voilà, on est comme ça, et puis on se fait une nuit horrible. Les infirmières rentrent à 3h du matin. Bonjour, monsieur Clermont. Alors, Gaspard, on vient faire tes petits soins. Bon, c'est infernal. Donc, on était démontés. Quand on se croisait, on s'engueulait parce qu'on était épuisés. Voilà, bon, c'est un peu caricatural, mon truc, mais... C'était quand même pas loin d'être ça. Et donc, assez rapidement, on a fait comprendre aux médecins qu'on était capable de s'occuper de Gaspard et que donc on s'en occuperait à la maison. Ça n'a pas été facile. Vas-y.
Du coup, le grand 3, vous avez compris que les fruits de Gaspard, on l'arborera après. Ça n'a pas été facile parce que quand on a demandé l'HAD, l'hospitalisation à domicile, le chef de service a eu peur. Je pense que sa peur était légitime, parce qu'il ne savait pas sur quel parent trou il pouvait compter. Donc il ne savait pas trop qui on était, on ne lui avait pas assez montré qu'on savait faire. Donc le médecin m'a dit, droit dans les yeux, il ne faudra pas aller pleurer s'il meurt trop tôt. Quoi. Voilà. Alors, les futurs soignants, je vous en conjure, ne dis pas ça à un cœur de maman. Hein.
Un papa en
voilà. Ou de papa, évidemment. Et donc, effectivement, on a mis en place cet HAD, vraiment contre la vie médicale.
Ouais.
Voilà. C'était pas très bien, mais...
Mais
après, ils ont accepté, et finalement, l'équipe de l'HAD est venue tout de suite du centre hospitalier Louis Mourier de Colombes pour nous rencontrer à domicile, et là, ils ont vu que on allait y arriver.
Ouais. On a quand même vraiment eu, avec toutes les équipes médicales qui sont occupées de Gaspard, des relations... extraordinairement bonne.
Sauf lui.
Ouais, sauf lui, mais ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, Non, c'est vrai, ça n'a pas duré trop longtemps. Vraiment, on a eu des relations extraordinaires avec toutes les équipes médicales qui entouraient Gaspard. Je pense que Gaspard l'est touché. Je pense que Marie-Axelle l'est touchée. Bon, je te flatte. Je pense que Marie-Axelle l'est touchée. Le jour des funérailles de Gaspard, il y avait beaucoup de monde. Il y avait toute l'équipe qui s'était occupée de Gaspard. Il y en avait un paquet des filles qui s'étaient occupées de Gaspard. Il y a quelques défis qu'elles ont. Il y avait quand même le kiné, il y avait un kiné au début. J'étais jaloux, alors il est parti. Il venait à la maison,
Marco. Tout
ça. Il s'installait, il prenait des cafés. On l'a changé. Bon, là, je l'ai muté. Mais non, on a vraiment eu des relations extraordinaires avec les équipes médicales qui ont été d'une grande humanité. Enfin, faut dire, infirmière à domicile, c'est un truc de dingue, hein. Les filles, elles rentrent dans ton quotidien. Elles s'attachaient vraiment à Gaspard, évidemment. Elles le suivaient tout le temps. Elles venaient le voir 4 fois par semaine. Moi, j'ai vraiment été subjugué par à la fois leur grand professionnalisme, leur attachement, parce qu'elles n'étaient pas du tout techniques. Voilà. Et je trouvais qu'elles avaient vraiment un rapport hyper sain à la famille, à Gaspard, aux soins qu'elle lui apportait, à la fin de vie. Enfin, vraiment... Moi, je ne fais que vanter les mérites des équipes médicales. Les gens qui nous ont annoncé le diagnostic de Gaspard, c'est vraiment, ils ont fait ça de manière hyper intelligente, avec beaucoup de douceur, beaucoup de progressivité, beaucoup d'écoute. Ils ont été très présents jusqu'au bout. Voilà, on est en train de monter un petit film sur Gaspard, un petit film de témoignage. La neuropédiatre, elle a dit, mais bien sûr, je vais me parler de Gaspard. Enfin, voilà, on sentait vraiment tous que Gaspard les avait touchés. C'est quand même fou parce qu'il n'a pas dit un seul mot de toute sa vie. Hein. Voilà, mais voilà, c'était pour quand même. Mis à part ce chef de service qui n'a pas voulu nous laisser partir en HAD, mais que finalement Marie-Axel a assez vite convaincu, on a vraiment eu des relations extraordinaires. Et on a été vraiment impressionnés par leur grande humanité, leur professionnalisme, tout ça avec un bon équilibre qui n'est pas facile à trouver, je pense. Hein. Moi, j'aurais été la kiné, j'aurais eu envie de faire des bisous à Gaspard, quoi. Ben non. Elle était adorable, elle le manipulait hyper bien, mais je pense pas qu'elle lui faisait des bisous, alors quand on n'était pas là. Enfin, mais franchement, vraiment ça. Moi, je suis un peu trop émotif, vraiment, j'ai trouvé ça très impressionnant. Voilà. On va parler un peu maintenant, effectivement, de la fécondité de Gaspard. Alors, évidemment, vous avez bien compris, on pourrait vous parler pendant des heures et des heures de Gaspard, et puis d'ailleurs, c'est une grande joie, je m'aperçois que c'est vraiment une grande joie d'en parler. Gaspard, il a évidemment changé nos vies, changé notre vie. J'avais mon colonel que j'aimais beaucoup, j'avais dit, voilà, je lui avais envoyé un texto en disant, il y a une histoire horrible qui est en train de nous arriver, notre petit garçon, celui dont je vous avais parlé, il est atteint d'une maladie dégénérative, incurable. Il m'avait dit, tu verras, Gaspard, ce sera ton chemin d'essentiel. Et cette phrase-là, elle nous est restée depuis toujours. Effectivement, Gaspard, ça a été notre chemin d'essentiel. Il nous a montré, dès le jour où on a reçu son diagnostic, ce qui était vraiment important dans la vie. Alors, voilà, c'est important qu'on vous le dise, ça. Il nous a montré ce qui est important dans la vie. Du coup, nous, on va essayer de vous dire un peu ce qui est important dans notre vie. C'est pas ce qui est important dans la vôtre, en tout cas, c'est ce que Gaspard a révélé. Il nous a appris à vraiment mieux aimer. Il nous a appris ce qu'était le véritable amour. Et ce véritable amour, nous, on a compris que c'était le don total de soi. Pendant 3 ans et demi, on a mis notre vie sociale, sortie complètement entre parenthèses. Et par contre, on a tout de suite dit avec Marie-Axelle, ce qui est sûr, c'est que si notre couple se casse la gueule, Gaspard, on va pas y arriver. Donc on a vraiment mis notre amour conjugal, notre couple et notre famille en premier. On a même mis notre couple avant Gaspard. Alors c'est difficile de se le dire, mais on s'est dit, on met notre couple avant Gaspard. Il y a des moments où on dira à Gaspard, désolé mon petit gars, mais on va au resto. Alors, bon, on a fait ça 50 fois. Hein. Mais en tout cas, dans l'esprit, on l'avait quand même toujours dans notre tête, quoi. Il est hors de question que Gaspard nous sépare, c'était pas possible. On sentait bien que l'amour qu'on donnait à Gaspard, il venait de notre amour conjugal. Nous, on pense que notre amour conjugal, il vient du bon Dieu. On a le droit de pas y croire, mais en tout cas, la source de notre amour pour Gaspard, il était dans l'amour qu'on se donnait l'un à l'autre. Ça, ça a été hyper important. Voilà. On a aussi accepté notre complémentarité. Et notre complémentarité, pour le dire, c'est nos différences, quoi. C'est beau, la complémentarité, et tout ça. Enfin, ça veut dire qu'on n'est pas du tout pareil, quoi. Enfin, nous deux, on n'est pas du tout pareil. Alors moi, je ne veux pas faire brosser le schéma un peu débile de la complémentarité homme-femme. C'est de la complémentarité Marie-Axelle Benoît. Moi, j'ai des côtés un peu féminins, un peu bavards. Marie-Axelle, finalement, elle a des côtés un peu plus rationnels sur certains points. Enfin, c'est de la complémentarité de notre couple. Il n'y a pas une complémentarité homme-femme qui est reproductible un peu partout. Ça, en tout cas, on l'a accepté. Moi, j'ai accepté qu'il y a des moments où je me sentais incapable de m'occuper de Gaspard. Incapable. Mais, moi, il y a des moments où j'étais tétanisé. Tétanisé quand il avait des crises de vomissement. Enfin, je souffrais de le voir comme ça. C'était, au début, en tout cas, c'était trop pour moi. Donc je sortais. Et je disais à Axel, vous savez, je veillais avec Axel, je veillais Gaspard, je lui disais une histoire. Et puis il y avait des moments, il était un peu pris de convulsions. J'appelais Marie-Axel, quoi. J'appelais Marie-Axel. Maman, Marie-Axel. Voilà. Et ça, je l'ai accepté. Marie-Axel, elle a accepté aussi que parfois... elle a accepté de ne pas avoir le choix, de me laisser Gaspard, de me laisser gérer Gaspard. Et des moments, j'ai dit à Marie-Axel, pars en week-end, je vais gérer Gaspard. Je vous raconte pas, la prise de consigne était longue. Mais Marie-Axel, à côté de ça, elle acceptait l'idée que j'allais pas m'occuper de Gaspard de la même façon qu'elle. Ah oui, il allait y avoir des couches qui débordent, le Rivotril, il y en avait parfois un peu trop, parfois un peu pas assez. Fallait pas qu'il y en ait beaucoup trop, mais parfois il y en avait un peu trop. Voilà, parfois j'ai rajouté une goutte de Rivotril en me disant, oulala, comme ça il dormira un peu mieux. Voilà, c'est. Mais Marie-Axel, elle me faisait confiance, mais elle me demandait pas de reproduire exactement ce qu'elle faisait. Voilà, elle ne me demande pas de reproduire exactement ce qu'elle faisait. S'occuper de Gaspard, ce n'était pas le mode d'emploi qu'avait Marie-Axelle. Moi, j'avais mon mode d'emploi. Et je sais que Gaspard, il se disait, oh là là, ce week-end, c'est papa. Bon, alors, on va plus rigoler peut-être qu'avec maman. Mais par contre, il y a des moments où, punaise, je vais me retrouver dans des positions un peu rock'n'roll. Voilà. Mais ça, on l'a vraiment accepté. Mais moi, je sais que j'aimais ma femme en lui laissant un week-end où elle pouvait enfin dormir plus de 4 heures de suite, quoi. Voilà, moi, je suis amoureux de ma femme, je suis surtout impressionné par ce que ma femme a fait pendant ces 3 ans. Moi, j'ai fait 2 nuits, elle en a fait, je sais pas combien, 600, à s'occuper de Gaspard. Ça aussi, c'était une forme de complémentarité. Moi, j'avais dit, je ne peux pas être capable d'arrêter de bosser, il faut que je bosse, il faut que je gagne la croûte pour la famille. Mais Marie-Axelle, elle m'a dit, ok, donc je serai toutes les nuits. Voilà, donc elle a fait... 775, je sais pas combien, nuits à se lever 8 fois par nuit. Pendant que moi je dormais pour pouvoir aller bosser. Voilà, ça c'est quand même pas du tout évident. Hein. Il y a des moments où si on s'est pourri la gueule, elle me disait mais c'est pas possible, faut que t'arrêtes de bosser, je peux plus y arriver. Voilà, donc on a accepté d'être complémentaires, d'être en vérité. Moi au fur et à mesure, j'ai un peu diminué mes horaires de travail, j'ai pris une journée par semaine pour pouvoir m'occuper de Gaspard, faire souffler un peu Marie-Axelle, mais. Mais voilà, on a vraiment accepté notre complémentarité. Jamais je vous dirais que ça a été une histoire de bisounours. Il y a eu plein d'engueulades, ça a été parfois très difficile pour Marie-Axelle, parfois très difficile pour moi. Mais on s'en sortait en se tournant l'un vers l'autre et en se demandant de quoi t'as besoin. Voilà. De quoi t'as besoin, Marie-Axelle, pour que ça soit moins dur. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai appris, enfin, au bout de 10 ans de mariage, à écouter ma femme. Voilà, on a accepté cette épreuve, on s'est un peu abandonné, mais on a pris le temps de faire les choses, on a laissé passer la colère, laissé passer le sentiment d'injustice. Moi, j'ai dû laisser passer quand même 4-5 mois de déprime, dépression, je sais pas comment on dit. Enfin, bref, j'étais pas beau à voir. On a accepté nos sentiments comme on les accepte maintenant dans le chemin du deuil, qui est parfois facile. Un soir comme aujourd'hui, c'est beau, on est heureux. Mais voilà, demain, ça se trouve, j'irai pas bien. Et on fera un retour en arrière sur notre chemin du deuil. On accepte tout ça. Voilà, mais ensemble. Voilà, mais ensemble. Ce qui ne veut pas dire que c'est tous les jours facile. Gaspard, il nous a vraiment appris à vraiment aimer. À aimer notre couple et à aimer nos enfants. En se préoccupant un peu moins de leur réussite scolaire, de l'impression qu'ils donnent aux autres. Moi, de mon avenir professionnel. Voilà, on a remis, en fait, assez simplement, les choses dans l'ordre. Voilà, les choses dans le bon ordre. Les choses dans l'ordre dans lequel elles doivent être. D'abord son couple, ensuite ses enfants. On a mis le bon Dieu tout en haut, mais on vous est pas obligé. On vous conseille quand même. Et après tout ça, après les amis, et après la vie professionnelle, la réussite, la façon... Et encore, cette vie professionnelle, nous, on a vraiment essayé de la mettre au service des autres. On n'est pas là pour faire du pognon. Voilà, la deuxième forme de fécondité de Gaspard, qui a été très très belle, dont Marc-Axel va un peu plus vous parler, c'est le témoignage.
Le témoignage, par exemple, vous ce soir, en fait, au départ, Benoît a ouvert en novembre 2015 la page Facebook de Gaspard, Entre Terre et Ciel, aussi parce qu'on n'arrivait plus à répondre à tous les messages de nos amis qui voulaient avoir des nouvelles de la santé de Gaspard. Donc voilà, on a ouvert cette page le 30 novembre 2015, aussi pour donner des nouvelles et de sa santé. Et en fait, on s'est très rapidement aperçu que cette page Facebook nous dépassait complètement et que les visites étaient bien plus nombreuses que prévues et sans trop savoir pourquoi. Et finalement, on s'est dit, en fait, c'est peut-être tout simplement ça. C'est peut-être simplement la richesse de la faiblesse, la richesse de la fragilité, la richesse de la vulnérabilité. Quand on parle de la richesse de la vulnérabilité, c'est vraiment une notion importante parce que Gaspard, il était tout petit, tout vulnérable, tout fragile. Et pourtant, beaucoup venaient le voir sur la page pour prendre de ses nouvelles. Il y a eu, du coup, énormément de messages de témoignages des gens qui nous ont confié leur propre croix, leur propre douleur, leur propre souffrance. Beaucoup de parents ont témoigné de décès de leurs enfants, de leurs propres enfants. On s'est donc effectivement aperçu qu'il y avait des liens à tisser entre chacun pour valoriser cette vulnérabilité, pour s'en préoccuper, pour avoir un regard empli d'empathie pour son prochain. C'est ce que la page, finalement, a généré, mais on va dire vraiment malgré nous.
Oui, initialement.
Initialement, c'était pas pour ça qu'on faisait ça. Ça nous a aussi permis d'avoir des rencontres avec d'autres familles touchées par le handicap et la maladie. Et notamment, on a décidé donc de s'engager dans l'association Vaincre les maladies lysosomales, qui donc génère 53 pathologies rares et donc du lysosome. Et on a décidé de se lier ensemble pour être plus fort, pour avoir plus de visibilité, pour apporter un soutien aussi plus important aux familles touchées. Et on s'échange beaucoup de conseils. Benoît travaille beaucoup avec un consortium européen pour les maladies de Tessax et Sandoff. Voilà, ils développent vraiment tous ensemble ce registre européen de patients, parce qu'un jour, quand il y aura un traitement pour guérir cette maladie, puisque c'est la visée, on saura vers qui se tourner, parce que les petits patients seront recensés. Enfin voilà, tout ça, c'était vraiment pour vous donner une petite idée des fruits. Ce soutien à la recherche scientifique et médicale, ce soutien auprès des patients et des familles de patients concernés et touchés, et aussi tout simplement à tous ceux qui nous témoignent par message de ce qu'ils ont de lourd dans leur vie et de ce qu'ils ont à apporter. Et en fait, cet échange de croix, cet échange d'épreuves fait qu'ensemble on est plus fort. Parce que moi, quand j'écoute quelqu'un qui me dit je suis chirurgien anesthésiste. Pendant 25 ans, j'ai considéré mes patients comme des numéros de dossier et que je tombe sur la page de Gaspard et qu'en comprenant que Gaspard est si fragile, si vulnérable, mais qu'il est avant tout humain, je vous promets, sans croire en Dieu, que je vais à nouveau considérer la personne derrière mon numéro de dossier. Mais ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage de la vulnérabilité. C'est un tout petit garçon qui a œuvré dans le cœur de ce chirurgien. Mais ça va de ce chirurgien à n'importe qui d'autre. Nos voisines, un plus ou moins pote du boulot de Benoît, ben voilà, ça va très très loin. Mais parce que nous aussi, on a ce profond respect et cette écoute de la croix de l'autre, de l'épreuve de l'autre. Voilà, si vous écoutez les épreuves sans vouloir véritablement les comprendre ou en tout cas les partager, si vous êtes juste là en soutien, avec empathie, avec écoute, je vous garantis que le monde sera beaucoup plus beau. Voilà.
Oui, il y a beaucoup de gens qui nous ont témoigné mais ce qu'on a également reçu, c'est-à-dire que le témoignage de Gaspard leur a permis de remettre dans leur vie les priorités dans l'ordre. Voilà. Ce qui est en fait énorme, parce qu'au fur et à mesure, on peut assez facilement mettre les priorités, enfin mettre les choses dans le mauvais ordre, en faisant par exemple passer sa réussite professionnelle au premier lieu. Alors moi, je suis hyper ambitieux, je suis militaire, je suis sûr que je serai général, mais quand même, c'est vraiment pas ça la priorité. Et si en tout cas toute ma vie de famille, elle se base sur le fait que j'ai de l'ambition professionnelle, bah, franchement, je me suis planté. Je me suis vraiment planté. Par contre, si ma vie, elle consiste à mettre Marie-Excel et les enfants au premier plan, puis mes amis, tout en faisant mon devoir, et en le faisant bien, hein, il ne s'agit pas de négliger ce qu'on fait au travail, au contraire. Hein, si on le fait dans un esprit de service, il faut le faire hyper professionnellement et s'engager à fond. Mais en attendant, il faut quand même remettre les priorités dans l'ordre. Et il y a beaucoup de gens et beaucoup de papas qui nous ont témoigné de ça en disant « Mais t'as raison, vous avez raison, il faut qu'on remette les choses dans l'ordre. » Gaspard, son témoignage, il dépasse là, très largement le « Oh là là, dis donc, faut pas qu'on oublie qu'on a de la chance, il y en a qui ont des misères. » Ouais, ok. Il y a toujours des gens qui vous disent ça. « Ah bah oui, hein, quand on voit ce qui vous arrive, hein, nous on est heureux. Hein. » Oui, merci, nous aussi. Mais voilà, ça dépasse très largement ça. C'est voilà le remettre les priorités dans l'ordre. Nous, on a quand même aujourd'hui une espérance immense, c'est que Gaspard est au ciel et qu'il nous attend et qu'un jour on le retrouvera. Alors c'est ce qui peut expliquer parfois notre sourire qui peut paraître un peu décalé par rapport à la situation qu'on vit. Je veux juste terminer en disant qu'on a vécu des choses extrêmement dures individuellement, que notre couple a tangué, vraiment difficile, que ce qu'on a vécu comme épreuve, on le souhaite absolument à personne, mais que, en tout cas, la vie extrêmement faible de Gaspard, qui n'a jamais parlé, qui était aveugle, qui ne déglutissait pas, qui est mort à 41 mois, elle a été immensément digne, qu'elle mérite d'être vécue, et que grâce à lui, on devait l'élever, c'est nous qui nous a élevés jusqu'à être ici, hyper heureux, et que comme le disait une fille qu'on aime bien, qui a écrit un beau livre, plusieurs beaux livres, elle s'appelle Marie de Henzel, elle nous disait, et ce sera le mot de la fin, et Gaspard l'illustre parfaitement, que ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre. Voilà.
Alors, je pense qu'on va faire passer le micro. Vous n'avez qu'à lever la main et je vous passerai le micro. Voilà. Ou parlez fort. Si on a des questions.